j'ai décidé aujourd'hui de vous poser une question à laquelle vous allez répondre, rassurez-vous, dans votre fort intérieur. Question évidemment très difficile, puisque vous n'êtes plus des enfants. Qui a un père, un papa ? Mieux, êtes-vous conscient que votre père a un père, et que même le père de votre père a un père ? C'est dingue, non ? Tout le monde a un père. Nous avons tous un père. Pour qu'il y ait un enfant, il faut un père, quel qu'il soit. Malgré tous les systèmes pseudo-médicaux inventés aujourd'hui pour éventuellement se passer d'un père, il en faut toujours un à l'origine, même si sa participation se limite parfois à quelques cellules. Certes, et ce ne sont que quelques exemples, il y a des relations père qui sont tragiques. Père absent, père inconnu, père de passage, père abuseur, père violent, père tyrannique, père silencieux, etc. Ou comme le dit un des nombreux ouvrages de développement personnel que vous pouvez trouver aujourd'hui, on en trouve partout, il y a deux rayons dans nos librairies et bibliothèques qui n'arrêtent pas de grandir, c'est toute l'approche psychologique, développement personnel, et puis toute l'approche pseudo-spirituel. Comme le dit un de ses ouvrages, « Père manquant, fils manqué ». Malheureusement, d'autres ont aussi perdu leur papa ou ne l'ont jamais connu. Mais il n'en reste pas moins vrai que nous le voulions ou non, que ça nous plaise ou pas, nous avons tous un père. Par conséquent, et c'est là que je veux y venir, nous sommes tous des enfants, les enfants de notre père, les fils ou les filles d'eux. Je me souviendrai toujours de mon grand-père, qui jusqu'à la fin de la vie de sa maman s'en est occupé chez lui, il était veuf, et qui, rentrant du travail alors qu'il était proche de l'âge de la pension, pouvait parfois aller faire une course ou un déplacement quelconque, ou aller voir un ami. S'il rentrait plus d'une demi-heure après l'heure prévue de son travail, sa mère de 95 ans était dans le salon et qu'il rentrait dans la pièce, elle faisait « Et alors, gamin, t'as traîné où ?» Il avait 65 ans. Nous restons les fils et les filles d'eux. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie ? C'est quoi être père ? C'est quoi être fils d'eux ? Pourquoi Dieu, qui n'est ni homme ni femme, a-t-il choisi de se faire appeler notre Père quand nous devenons chrétiens ? Je vous propose d'essayer de démêler quelque peu cette expression en regardant quelques textes de la Bible où cette notion est abordée. Comme l'amour d'un père pour ses fils, l'amour de Dieu est pour ceux qui le craignent, dit le psaume 103. Le terme de « père » utilisé pour Dieu rappelle d'abord tout l'amour de Dieu pour les hommes, tel que le Christ nous l'a annoncé. Dieu est père, tout d'abord parce qu'un père adopte toujours ses enfants. Le lien à la mère, il est évident, il est ombilical, en tout cas au moment de la naissance. Après, le lien peut disparaître, mais au moment de la naissance, il est évident. Le lien au père, jamais. Le père, c'est celui qui accepte que l'enfant qui vient de naître soit le sien, soit désigné comme étant le sien. C'est celui qui dit « Oui, tu es mon enfant ». C'est celui qui décide de créer un lien, évident avec la maman, je l'ai dit, mais encore tout à construire entre l'enfant et le père. Accepter de devenir père, c'est avant tout un geste d'amour et d'adoption. Et c'est pourquoi la Bible utilise souvent, dans deux contextes différents, deux termes pour parler de la relation de Dieu aux hommes. Pour exprimer que tous les hommes lui donnent la vie, Dieu utilise le terme de créateur. Il est le créateur de tous les hommes. En reprenant une image qui est certes peut-être bancale, mais qui vaut ce qu'elle vaut, il est le géniteur de tous les hommes, celui à qui ils doivent la vie. Mais pour exprimer son amour pour ceux avec qui il tisse une relation, cet amour total, plein de pardon et de tendresse, Dieu utilise le titre de Père. Et Jean insiste tout particulièrement sur ce point. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est dans 1 Jean 3, verset 1. L'amour lié au titre de Père. Il ne parle pas ici de la création, mais il s'adresse bien à ceux qui sont entrés dans une relation de confiance et d'amour avec Dieu. Si Dieu se positionne comme étant le créateur de tous les hommes, il faut bien reconnaître qu'il ne les appelle pas tous ses enfants. Alors pour les pères et pour les mères, il y a là, je crois, une indication. On peut être le géniteur de ses enfants, mais on ne devient réellement le père ou la mère d'un enfant que lorsque l'on tisse une relation privilégiée avec lui, qu'on l'aime et qu'on lui donne ce dont il a besoin pour se développer. Mon père, ce n'est pas nécessairement mon géniteur, c'est celui qui m'a aimé et élevé. Mon père, c'est celui qui m'a entouré de sa tendresse, qui m'a donné ce dont j'avais besoin pour vivre ma vie, qui m'a fait mûrir et m'a appris à marcher debout, comme un homme. C'est en tout cas ce père-là que Dieu veut être pour nous. Ainsi, lorsque nous appelons Dieu notre Père, nous reconnaissons qu'il nous a aimés, qu'il nous conduit et nous entoure avec amour. Cette conduite implique quelque chose. Vous avez certainement déjà entendu cette fameuse phrase « Obéis à ton Père ». Une fois de plus, je souligne avant toute chose, combien les pères terrestres ont tout intérêt à baser leur action sur celle de Dieu. Car Patrick Bruel a bien raison quand il chante « On m'avait dit, il faut écouter ton père, le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. » Une fois encore, ne construisons donc pas notre image de Dieu sur celle que nous a laissée notre père, mais construisons notre paternité, pour ceux que ça concerne, sur celle de Dieu. Revenons à notre propos. Obéir à son père, est-ce normal? J'ai rassuré tous les pères présents ici, oui. Pourquoi? Parce que normalement, et quand tout se passe bien, mon père cherche mon bien. Il veut m'éduquer pour que je puisse affronter la vie. Par l'adoption divine dont nous sommes l'objet, c'est le rôle que Dieu veut jouer pour chacun de nous. C'est ici que résonne ce texte si célèbre, et pourtant si souvent mal compris, « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Indéniablement, il faut mettre cette parole en rapport avec la présentation que Jésus nous fait de Dieu comme Père. Si nous devons devenir comme des petits-enfants, c'est parce que nous avons un Père. Devenir comme un enfant, c'est entrer dans une relation de confiance et d'amour vis-à-vis de ce Père-là. Pourtant, notre compréhension de ce texte est souvent faussée parce que nous ne vivons pas au premier siècle de notre époque, au Moyen-Orient. Nous avons une image assez romantique de l'enfant, assez chaleureuse de la relation entre le père et son enfant, qui est influencé par 20 siècles d'histoire de christianisme. Devenir un enfant à l'époque de Jésus, c'est prendre conscience de son insignifiance et de sa dépendance par rapport au Père. Entrer dans cette relation de confiance et d'amour, c'est donc par conséquent accepter de nous en remettre pleinement et en toute chose à notre Père. C'est lui qui définit, parce qu'il le sait, ce qui est bon et ce qui est mal pour nous. C'était le rôle du pater familial à l'époque. Le père, il disait, c'était. Il ne peut pas y avoir de « c'est pas si grave » à partir du moment où Dieu a déclaré que quelque chose est mauvais, à partir du moment où il a dit que nous devions nous en abstenir. De même, à partir du moment où Dieu nous indique une manière de vivre, nous en abstenir ne relève pas du détail. Il ne peut pas avoir, il n'y a pas de péché mignon ou de péché bénin. C'est l'erreur que font les Corinthiens, qui ont fini par excuser ou expliquer de façon très rationnelle et humaine des comportements pourtant condamnés par Dieu, parce que, disaient-ils, Dieu est amour, la grâce est plus grande que le péché, et c'est très vrai. Et donc, disent-ils, Dieu nous reçoit tous, et donc le péché n'est pas si grave, puisque Dieu peut tout pardonner. Mais agir ainsi, c'est comme l'aurait dit mon arrière-grand-père, donner un coup de marteau supplémentaire dans les clous de Jésus. Pourtant, on croirait nous entendre. Et nous sommes là au cœur de notre vie spirituelle, puisque c'est ici que nous décidons d'entrer dans cette attitude liée à la confiance que nous pouvons avoir, que le Père nous écoute avec attention et amour, et que rien de ce qui peut nous arriver ne lui échappe. C'est là que nous acceptons que Dieu est Dieu, que nous acceptons que dans la définition du bien comme du mal, il est celui qui a raison, toujours. Oui, il s'intéresse avec patience et bonté à notre vie. Il nous connaît et nous aime tel que nous sommes. Et comme un père, il veut nous faire grandir pour nous faire participer à ce qu'il est, c'est-à-dire devenir pleinement un membre de sa famille. La maturité spirituelle, j'en suis convaincu, ce n'est autre que cet esprit d'enfance qui nous permet de reconnaître notre Père et nos frères. Parce que pour reconnaître des frères, il faut reconnaître le même Père. Puisqu'il n'est pas question de mère dans la symbolique biblique. C'est lorsque nous sommes encore immatures et pleins d'illusions, donc pleins de nous-mêmes, que nous dérobons pour retrouver les commandes de notre existence, pour estimer que ce n'est pas si grave, que Dieu comprendra, que de toute façon il pardonne toujours, qu'on ne va pas en faire un plat, qu'on pourrait passer à autre chose. Combien ce genre de réflexion nous est trop souvent familier, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Nous devons pourtant apprendre peu à peu à lâcher prise, à nous abandonner et à nous confier en Dieu. Alors, il y a d'immenses promesses qui y sont liées. La joie et la paix peuvent venir et s'immiscer dans notre vie parce que nous laissons la place à l'esprit et que nous nous situons d'une manière juste par rapport au Père. Comme les enfants que, par la grâce de l'adoption, il nous donne d'être. C'est ainsi que nous pouvons abandonner les soucis et les inquiétudes qui nous envahissent si souvent. Notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin. Et nous pouvons nous confier en lui. C'est pourquoi la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Psaume 111. La version Sommer a choisi de traduire « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. » Cette sagesse-là conduit à l'acceptation de notre filialité. Nous avons bien trop souvent intégré et compris la crainte du Seigneur comme équivalente à la fameuse peur du gendarme. Et à mon sens, c'est une grosse erreur. Lorsqu'il est question de la crainte de Dieu comme commencement de la sagesse, il s'agit d'une crainte qui relève du respect. Lorsqu'il est question de notre relation à Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu ne peut qu'être pris au sérieux, car on ne se moque pas de Dieu. Car oui, il est utile de le rappeler, il y a une crainte justifiée de Dieu, une crainte justifiée de Dieu en tant que Père. Il ne peut être question de croire que, puisqu'il est amour, tout est permis. C'était encore l'erreur des Corinthiens. Croire que puisque mon Père m'aime, je peux faire ce que je veux, il m'aimera quand même toujours. Sans se rendre compte que faire ce que je veux comme ça, c'est nier, détruire l'amour qui nous lie. C'est ce que va souligner Arnaud Desjardins dans un article qu'il a écrit « Dieu en tant que Père ». La crainte de Dieu est un sentiment qui ne relève pas de la peur, mais plutôt de la gravité. Si j'avais un Père humain qui soit vraiment un Père, est-ce que je considérerais que je peux tout me permettre en face de lui parce qu'il m'aime? Vient un moment où même le Père qui a le plus d'amour va dire non. On ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain, on ne peut pas tricher, on ne peut pas traiter Dieu à la légère ni le duper. Une décence, une dignité nous sont demandées. Nous sentons que nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment, que nous avons un rôle à jouer et que quelque chose nous incombe en face de Dieu. Mais cette crainte légitime n'a rien à voir avec la peur. Prendre conscience de la façon dont la paternité de Dieu joue et de la façon dont nous nous positionnons en tant que fils, c'est, je crois, mettre en jeu toute notre spiritualité. Toute la spiritualité d'une personne dépend de l'idée qu'elle se fait de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué la définition de l'idole dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas un Baal qui n'en était qu'une de ces idoles. L'idole, c'est l'image de Dieu. Autrement dit, vous pouvez très bien avoir une idole qui s'appelle Dieu l'Éternel. Mais c'est une image, ce n'est pas Dieu. C'est une image que je me fabrique de Dieu, le Dieu qui me convient, mais ce n'est pas Dieu. Toute ma vie spirituelle est là. Qui est Dieu pour moi? Calvin disait, être chrétien, c'est croire que Dieu veut mon bien. Le péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est mon bien. Nous ne saurions sous-estimer l'importance d'une juste compréhension de l'amour de Dieu en tant que Père, un Père qui veut faire de nous ses fils et ses filles. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons réellement vivre notre fraternité. J'y reviens. Et c'est bien trop souvent parce que nous n'avons pas franchi cette étape de base que nous bloquons dans bien des domaines. Nous ne pourrons nous reconnaître en tant que frères et sœurs et vivre cette fraternité que si nous reconnaissons le même Père, que si nous sommes bien membres de la même famille. À partir du moment où nous avons des pères différents, nous ne sommes pas frères et sœurs. Je reviens également sur cette image détournée que nous avons de l'enfance, quand il nous est dit que nous devons devenir comme des enfants. Du temps de Jésus, en Israël c'était jusqu'à 13 ans, l'enfant n'avait pas de statut social. Il était considéré quasi comme un esclave à bon marché pour ses parents. La mortalité infantile était telle qu'en Israël, on attendait que l'enfant ait 7 jours pour lui donner un prénom. Avant ça, il n'avait même pas une identité, on ne lui donnait même pas un nom. On attendait le 7e jour, il avait survécu. Dans le droit romain, un père qui tuait son enfant n'était absolument pas condamné. Il avait droit de vie et de mort sur son enfant. Il était le père. S'il le faisait, c'est que certainement l'enfant avait dû poser un problème. Donc quand Jésus dit à ses auditeurs « Vous devez devenir comme des enfants », il ne leur dit pas « Vous allez devenir les petits chéris de votre papa qui va vous donner tous les cadeaux que vous pouvez imaginer et qui va vous gâter ». Il leur dit « Vous devez réaliser que vous n'avez aucune valeur et que vous dépendez totalement de votre père ». L'enfant, à l'époque de Jésus, était dans la totale dépendance de son Père, qui avait droit de vie et de mort sur lui. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, il nous faut par conséquent le reconnaître aussi comme notre Maître, comme celui à qui nous devons tout et auquel nous sommes absolument au service. On en a un témoignage dans l'Ancien Testament. Arras, roi de Juda, préfère s'allier avec la Syrie plutôt que d'obéir à Dieu pour essayer d'éviter les invasions. Et qu'écrit-il en 2 Rois 16 au roi d'Assyrie? « Je suis ton serviteur et ton fils. » Il n'a aucun lien de parenté avec lui. Hein. « Je suis ton serviteur. » On pourrait traduire ton esclave, c'est le même mot. « Je suis ton esclave et ton fils. » C'est sa manière de dire au roi d'Assyrie « Tout dépend de toi. C'est toi mon chef. C'est toi qui domine. C'est toi qui dirige. S'il te plaît, viens pas nous faire la guerre. » Ainsi, être fils de Dieu est un privilège, mais c'est aussi un devoir de soumission, d'obéissance et de service. Là, j'ai plombé l'ambiance. Hein. Le fils ne serait-il donc qu'un esclave? Non. Non, parce qu'il y a une énorme différence entre l'esclave et le fils. C'est là que vient ma question difficile du début. Quelle est la différence entre l'esclave et le fils? le fils hérite de son père l'esclave, jamais. Souvenez-vous d'Abraham qui n'a pas de fils et qui dit de son serviteur, je vais devoir l'adopter parce que c'est lui qui héritera. Pour qu'il hérite, il doit l'adopter. Ça doit devenir son fils. Tant qu'il n'est pas son fils, il ne peut pas hériter. À moins d'être adopté, jamais l'esclave n'hérite. L'héritage, c'est le privilège du fils. Oui, j'hériterai de mon père le jour où il mourra. Si je suis le fils de Dieu, j'hériterai jamais, parce que Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Est-ce que cela veut dire que je n'hériterai jamais? Que nous ne devrions jamais hériter de Dieu? Oui, et pourtant nous héritons, c'est ce qu'il nous dit. Nous héritons donc de façon totalement imméritée. Nous n'avons pas droit à cet héritage. Et pourtant Dieu nous dit, oui, tu hérites. Nous héritons au-delà de ce que la justice stipule. Cet héritage est donc réellement un cadeau immérité, une grâce. Ce que Dieu nous donne, c'est le salut, la vie en abondance et une vie éternelle. Et avec un tel héritage, la question à se poser est, quelle est la condition pour hériter? En dehors du décès du légataire, puisqu'il ne décède jamais, comment est-ce que je peux faire pour hériter alors? Mais en faisant partie de la famille, pardi. Cela ne dépend ni de mes mérites, ni de mes qualités. J'hérite parce que je suis fils. Le salut n'est pas une récompense, mais un héritage, un don gratuit, avec la seule condition pour moi de reconnaître que je suis enfant de Dieu. Ainsi, nous dit Paul, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Fils, héritier et grâce. Aimé par Dieu, devenu fils et fille, nous apprenons à nous soumettre et nous sommes héritiers. C'est cela qui permettra l'application du fameux proverbe « tel père, tel fils ». Et c'est souvent vrai, même si, une fois encore, ce n'est pas une vérité absolue. Je suis originaire de Liège et j'y suis retourné pour une occasion particulière. J'étais amené à rencontrer des gens que je n'avais plus vus depuis 10, voire 15 ans. Et mon fils aîné était avec moi, il m'accompagnait. Je pense qu'il était saoulé. Il n'en pouvait plus, fin de journée, du nombre de personnes qui lui sont tombées dessus. « Toi, t'es le fils de Philippe, qu'est-ce que tu lui ressembles? Qu'est-ce que tu ressembles à ton père ?»« Oui, ça va, les gars, je sais que je suis le fils de mon père. » Mais même si c'est vrai, Ludovic demeure Ludovic. Il est lui. Nous avons beau ressembler à notre père, nous sommes libres et nous pouvons choisir à qui nous voulons ressembler. Heureusement pour mes fils d'ailleurs, qui ne sont pas condamnés à avoir mes défauts et à commettre mes erreurs. Et un grand soulagement aussi pour tous ceux qui auraient un père peu recommandable. Cette liberté, nous la retrouvons avec Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais notre liberté fait que nous pouvons, dans une certaine mesure, déterminer notre propre image. Nous pouvons choisir à quoi ou à qui nous voulons ressembler. D'accord. Même si nous choisissons notre filialité, soyons positifs, nous choisissons de ressembler à Dieu. Avouez que c'est mettre la barre un peu haut. C'est le gars qui se lance au saut hauteur aux Jeux Olympiques et qui fait « Ouais, la première barre, vous pouvez la mettre à 10 mètres. » Pas sûr qu'il passe. En dessous, oui. Comment pouvons-nous ressembler à Dieu? C'est assez difficile. Il y en a pourtant parmi vous qui ont eu un avantage pour se construire. Dans la famille, ils ont un modèle plus proche, un modèle plus accessible. Ils ont un grand frère ou une grande sœur. Et pour avoir été grand frère, pour l'être toujours d'ailleurs, je sais combien les plus jeunes peuvent vous regarder, soit pour vous copier, soit pour surtout ne pas faire la même chose que vous et surtout s'opposer. Mais en tout cas, vous leur servez de repère. C'est parfois très énervant. Le nombre de grands frères qui se retournaient en faisant « Mais arrête de faire la même chose que moi !» On connaît. Mais c'est tout à fait normal. Notre frère ou notre sœur est notre modèle le plus proche, le plus accessible. Par mimétisme ou par opposition, nous nous basons sur eux. Parce que ils nous sont proches. C'est plus facile de me dire « Je vais faire comme mon frère qui a 3 ou 4 ans de plus que moi » que « Je vais faire comme mon père qui en a 25 ou 30 de plus ». C'est pareil dans la vie de la famille de Dieu. Nous avons un frère aîné, un homme comme nous. En plus, un qui ne nous donne que le bon exemple. C'est Jésus-Christ. Nous pouvons ressembler à Christ. Christ qui est, nous dit la Bible, l'image du Dieu invisible. Le Christ est notre exemple de la ressemblance à Dieu. Si vous voulez savoir ce que ça signifie de être semblable à Dieu, regardez comment le Christ a vécu. Le Christ n'est pas seulement un prophète qui aurait dit un message intéressant, vital, mais il est aussi exemplaire par son existence, par ce qu'il a vécu, ce qu'il annonçait. C'est pour ça que les évangiles, ce n'est pas juste un catalogue de ce que Christ a dit. On nous raconte ce qu'il a fait, on nous raconte comment il a vécu, parce que sa vie en elle-même est un message. Sa vie est une prédication, sa façon de se comporter est un enseignement. À sa suite, même si nous n'avons pas la même mission et donc nous ne sommes pas appelés au même comportement partout, nous sommes tous appelés à devenir des exemples, des modèles, des repères pour nos frères et sœurs dans notre façon de vivre et d'être. Relisez les lettres de Paul, c'est sidérant, Alfred Thune en a même fait le titre d'un bouquin, le nombre d'expressions où Paul dit « les uns les autres ». Exhortons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres, prenons exemple les uns sur les autres, etc., etc., etc. Ce n'est pas réservé à une élite du peuple chrétien ou à des gens sur lesquels on aurait collé une étiquette avec un beau titre, qu'ils soient curés, pasteurs, prophètes, enseignants ou ce que vous voulez. Non, tous nous sommes appelés à être un repère, un exemple, afin de soutenir la vie de nos frères et sœurs, de les amener plus loin. Je vais essayer de résumer. Ce matin, nous avons redécouvert que Dieu veut être notre Père, qu'il veut nous adopter. Nous avons appris que cette adoption par Dieu implique des devoirs et des droits. Le devoir, c'est de vivre d'une manière qui rend mon Père fier de moi, de lui obéir. Le droit, c'est celui de l'héritage. Et Dieu donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est dans cet héritage. Et pour nous aider à remplir nos devoirs, nous avons un grand frère qui nous indique le chemin à suivre et nous guide. Ainsi donc, cette vérité de départ, nous sommes enfants de Dieu, peut se lire de deux manières complémentaires, à la fois comme une bonne nouvelle, une grâce, et comme un appel à la sanctification. C'est une grâce car, selon la justice, nous devrions être condamnés par Dieu. Or, vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est un appel à la sanctification car, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes l'image de notre Père sur terre. Il nous faut donc recevoir cette exhortation « Soyez des enfants de Dieu sans reproche » au milieu d'une génération perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2. Et c'est pourquoi, quand nous avons établi ce lien, nous découvrons et nous prenons pleinement conscience que la sanctification n'est pas un fardeau, mais c'est une grâce. C'est ce qui nous permet de devenir encore plus ce que nous sommes, de fait, ce que nous sommes appelés à être, enfants de Dieu. La sanctification est une grâce. Alors, à un moment ou l'autre de notre parcours de chrétien, et peut-être ce temps de vacances qui est parfois très compliqué pour les parents qui se disent « Pendant 2 mois, il va falloir gérer ces enfants qui ne vont plus à l'école, il va falloir les occuper, trouver un stage, un grand-parent, un copain, un ami, je ne sais pas quoi, mais quelque chose pour qu'ils soient gérés pendant que nous, on doit bien aller travailler ». Il est peut-être utile de faire le point sur notre relation avec celui qui veut être notre Père à tous. Car cela va déterminer en grande partie notre façon de marcher dans la vie, celle-ci et celle d'après. Oui, Dieu, dans son amour, veut être notre Père. Apprenons donc à le reconnaître comme tel. Amen.